La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens. La rhétorique populiste refuse la complexité du monde, postule qu'elle est une invention des élites et en déduit que les intellectuels sont par définition des imposteurs. À bien des égards, le populisme incarne une certaine forme de haine de la pensée et partant du libre examen. Ces quelques mots sont en avant-propos du livre dont nous allons parler ce soir, Le populisme aux États-Unis, un regard pour l'Europe de Jérôme Jamin. Bienvenue dans Libre Ensemble.
Libre Ensemble, Catherine Hax, Jacques Nizan.
Bonsoir à toutes et à toutes, merci d'être avec nous pour aborder la question du populisme ce soir avec Jérôme Jamin, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège, directeur du Centre d'études démocratie et président des territoires de la mémoire. Alors bonsoir Jérôme Jamin.
Bonsoir.
Vous venez de faire paraître un ouvrage, Populisme aux États-Unis, un regard pour l'Europe, aux éditions Liberté, j'écris ton nom, du Centre d'action laïque. Vous abordez la question du populisme aux États-Unis qui existe depuis plus d'un siècle, dites-vous, afin de mieux éclairer le phénomène qui se développe en Europe depuis une vingtaine d'années. Et avec nous également par téléphone, un fin connaisseur des États-Unis aussi, Jean-Paul Marteau, journaliste, chroniqueur au quotidien Le Soir, professeur invité de journalisme international à l'Université de Louvain et auteur de nombreux ouvrages sur les questions internationales. Bonsoir Jean-Paul Marteau.
Bonsoir.
Vous avez aussi été directeur européen de l'information de Human Rights Watch et correspondant en Europe du Committee to Protect Journalists. Vous avez également édité un livre en nos éditions, voici quelques années, L'éthique de la dissidence, morale et politique étrangère aux États-Unis. Alors, je vais commencer avec vous, Jérôme Jamin, à 2 mois du scrutin de mi-mandat qui s'est déroulé en novembre. Et alors qu'aux États-Unis démarre la 4e semaine de blocage partiel de l'administration et que la durée du shutdown est d'ores et déjà un record dans l'histoire américaine, vous dites, Jérôme Jamin, que Donald Trump, finalement, n'a pas inventé la haine ni le racisme aux États-Unis. Il en hérite plutôt. Après les années Obama, il les a simplement remis au goût du jour, au cœur de l'État. Alors, comment est-ce possible? Qui a inventé le populisme? Depuis quand date le populisme aux États-Unis? Expliquez-nous.
Alors, c'est une longue histoire, même si le livre que Liberté, j'écris ton nom m'a permis de réaliser est en partie un livre d'histoire. Ce n'est pas le but principal de l'ouvrage, est de faire une analyse contemporaine sur ce qui se passe aux États-Unis pour que ça puisse nous éclairer sur ce qui se passe en Europe. Mais si on veut parler du populisme aux États-Unis, il faut quand même faire un petit peu d'histoire. Et donc, la première chose que je dirais, c'est que c'est une très longue histoire. Ça apparaît à la fin du 19e siècle et ça apparaît de façon cyclique et ça apparaît le populisme aux États-Unis sous des formes le populisme aux États-Unis s'est greffé par le passé sur des idéologies parfois très différentes, ce qui m'amène à développer la thèse selon laquelle cette histoire du populisme aux États-Unis, c'est aussi l'histoire d'un populisme qui a pu être de gauche, d'extrême gauche, qui a pu être fiscal, qui a pu être de droite et qui a pu être d'extrême droite. Alors c'est important parce que l'histoire du mot en Europe n'est pas tout à fait la même que l'histoire du mot aux États-Unis. Mm-hmm. Et on a sans doute un peu trop souvent tendance à considérer en Europe que le populisme est un synonyme d'extrême droite. Mm-hmm. Ce n'est pas le cas. Le populisme d'abord n'est pas une idéologie, c'est un simplisme, c'est une simplification binaire de la réalité sociale, c'est-à-dire que plutôt que de considérer qu'il y a une grande diversité sociale, politique, culturelle dans la société, le populisme dit il y a avant tout une opposition binaire entre un peuple et une élite, sur laquelle on pourra revenir. Mm-hmm. Et cette opposition, qui est le cœur du populisme, c'est le cœur de la rhétorique populiste, cette opposition va se greffer sur des idéologies. Si jamais le populisme se greffe à l'extrême droite, le peuple va prendre un sens particulier, l'élite également. Si ce populisme se greffe sur un discours de gauche ou d'extrême gauche, le peuple n'aura pas la même signification, l'élite non plus. Mais on parle toujours de peuple et on parle toujours d'élite. Et même si on va y revenir, permettez-moi de revenir sur votre introduction. Vous évoquez le shutdown. Mm-hmm. Pour Donald Trump, c'est évidemment une aubaine, ce mécanisme. Pourquoi ? Puisqu'il a été élu sur base d'un programme qui indiquait qu'il n'était pas issu des élites politiques traditionnelles. De ce point de vue-là, il ne ment pas. Il n'était pas issu de Washington. C'est un homme qui s'est fait tout seul, qui est un homme d'affaires qui a réussi dans l'immobilier, qui a par ailleurs très très bien réussi dans l'immobilier, notamment à Manhattan, à New York. Là, de ce point de vue-là, ce n'est pas non plus un mensonge. Et il s'est positionné comme homme du peuple, certes très riche, mais qui s'est fait seul, homme du peuple contre les élites. Et la meilleure façon de montrer qu'il est toujours du côté du peuple, après 2 ans, contre les élites, c'est qu'il dit aujourd'hui, moi, Donald Trump, je suis prêt à défendre la cause du peuple qui veut se protéger contre les hordes de migrants étrangers, grâce notamment à un mur. Et si les élites de Washington ne veulent pas le payer, je vais bloquer le gouvernement jusqu'à ce qu'elles acceptent de le financer. Donc le shutdown, pour le dire autrement, si jamais il était dans les mains de Matteo Salvini en Italie ou dans les mains de Marine Le Pen en France, immédiatement ces deux individus l'utiliseraient pour bien montrer qu'ils sont plus du côté du peuple que de l'élite.
Donc il est prévisible à la fois, Donald Trump, mais il est aussi le descendant de toute une histoire du populisme aux États-Unis. Alors vous disiez dans les termes, c'est pas tout à fait la même chose. Quelle est la différence alors entre populisme aux États-Unis et un populisme en Europe?
Alors, donc le mot, la première chose qu'il faut retenir, c'est cette opposition peuple-élite. Ensuite, que cette opposition va se greffer sur des idéologies. Et puis après, dans l'histoire américaine, on peut faire référence au parti du peuple à la fin du 19e siècle, qui était plutôt marqué à gauche.
People's Party.
People's Party. On peut faire référence à Hugh Long, qui était un sénateur de Louisiane dans les années 30 et qui était également, mais certes dans une perspective très démagogique, mais qui était plutôt marqué à gauche, voire très à gauche. Il voulait d'ailleurs instaurer une sorte d'allocation universelle. Il voulait faire construire des routes pour que les pauvres puissent aller à l'école. Et il ne mobilisait pas de discours raciste, qui était tout à fait exceptionnel dans la classe politique de Louisiane dans les années 30. Un peu plus tard, on va avoir Joseph McCarthy, on va avoir plutôt marqué à droite, qui va activer la théorie du complot dite communiste. L'Amérique serait contrôlée par des élus qui en fait ont un agenda politique à la solde du Kremlin, des Russes. Et à l'aide des communistes. Et un peu plus tard, on va avoir des gens comme Ross Perot dans les années 90, qui étaient les porteurs d'un populisme fiscal, c'est-à-dire la fiscalité menace l'endettement de notre pays. La fiscalité n'est pas bonne, elle ne vise pas les bonnes personnes, elle taxe trop les pauvres et pas assez les riches. On a un petit peu avant Jesse Jackson, le révérend Jesse Jackson, plutôt
pour la cause noire,
noire, la Rainbow Coalition, défend les minorités, les femmes, les homosexuels, les noirs, les pauvres, les exclus. On a évidemment Arnold Schwarzenegger en Californie, plutôt marqué à droite. Pat Buchanan, candidat à la présidentielle en 92, en 96 et en 2000, marqué à l'extrême droite. Et puis Donald Trump, marqué très à droite. Donc on a ici 6-7 exemples d'individus qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui ont tous en commun l'activation d'un clivage peuple-élite, mais sur base d'idéologies très différentes. Le peuple chez Hugh Long, c'est le travailleur courageux, alors que le peuple chez Pat Buchanan, c'est l'Américain blanc, chrétien, menacé par des étrangers. Donc on a un peuple ethnique chez Buchanan et on a un peuple plutôt de travailleurs chez Hugh Long. Chez Jesse Jackson, le peuple, c'est les minorités, je viens d'en parler. Chez Arnold Schwarzenegger, le peuple, c'est le peuple californien face aux élites qui sont composées des démocrates et des syndicats qu'ils jugent corrompus. Bref, le mot peuple et le mot élite, ces mots n'auront pas toujours la même signification d'un individu à l'autre. Et pour répondre à votre question, en Europe, il se passe plus ou moins la même chose, mais l'apparition d'un premier populisme puissant électoralement, ça a été le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui est un populisme d'extrême droite, et on a l'habitude en Europe, dans le monde francophone, d'associer le populisme d'extrême droite de Jean-Marie Le Pen au populisme en général. Or, il n'en est rien. À certains égards, on peut considérer que le Parti des travailleurs de Belgique use de la rhétorique populiste, mais dans une perspective très sociale et très à gauche. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais tout le monde sait bien que le PTB se positionne très à gauche. Donc, quand ils vont activer la notion de peuple et la notion d'élite, ça n'aurait pas du tout le même sens qu'à l'extrême droite. La France insoumise, évidemment, de Mélenchon. Et on peut citer un certain nombre d'exemples. Si on traverse l'océan, on va avoir en Amérique du Sud, d'autres exemples de populisme de droite ou de gauche.
Nous reviendrons avec Jean-Paul Marteau. Mais alors, Jérôme Jamin, donc le populisme, on l'a bien compris, c'est une rhétorique, mais qui n'est pas forcément négative. Or, ce mot véhicule un tas de concepts négatifs, en tout cas qu'on analyse comme tel. Or, dans certains combats, et vous en donnez des extraits dans votre livre, c'était plutôt positif.
Oui.
Le populisme peut être donc une bonne chose ou en fait non, parce qu'une fois arrivé au pouvoir, les promesses ne sont pas tenues.
Alors, on peut considérer que le populisme, c'est un simplisme, donc, à certains égards, c'est de la démagogie. Mmh. C'est-à-dire que à partir du moment où on réduit une grande complexité à une opposition simple, mécaniquement, on devient démagogue, on abuse un petit peu, des gens qui nous écoutent en leur prétendant que les choses sont simples alors qu'elles sont compliquées, qu'on pourrait simplifier la société à une opposition peuple-élite alors que les choses sont bien plus compliquées. Donc, le populisme, à certains égards, c'est une forme de démagogie et donc ce n'est pas spécialement quelque chose de très positif. Néanmoins, je vous rappelle que en politique, il est très difficile de se faire comprendre sans simplifier. Mm-hmm. Donc on pourrait dire qu'il est très difficile de faire de la politique sans faire un peu de populisme, sans faire un peu de démagogie, sans faire un peu de simplisme. Alors, vous me dites, est-ce que le populisme, alors, parfois ne défend pas des causes justes? En effet, le populisme, même s'il est démagogique, peut, dans certains cas, défendre de bonnes causes. Ce n'est pas parce qu'on réduit la complexité du monde à une opposition au peuple-élite qu'on a toujours de mauvaises intentions. Quand Jesse Jackson estime que les Afro-Américains sont discriminés, quand il estime que les femmes n'ont pas suffisamment les mêmes droits que les hommes, quand il estime que l'homophobie est une menace, etc., etc., il défend un agenda progressiste qui, je pense, ne poserait aucun problème au Centre d'Action Laïque. Donc, on n'est pas, avec Jesse Jackson, face à un populisme, je dirais, spécialement négatif. Mais, à mon sens, c'est démagogique.
Alors, vous parliez de populisme fiscal, Jérôme Jamin. Depuis 2008, avec la crise financière et le début du mandat de Barack Obama, justement, il y a l'émergence d'un parti populiste qui s'appelle le Tea Party, en référence au fameux événement du Tea Party de Boston. Mais Tea Party qui voudrait dire « taxed enough already », donc une taxe déjà payée. Est-ce que ce parti est plutôt de droite, de gauche? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est une émergence étonnante ou justement c'est dans la filiation du reste?
Alors, le Tea Party, donc ce n'est pas un parti, c'est un mouvement qui regroupe un certain nombre d'individus, des centaines de milliers d'individus. Ce mouvement est parvenu à influencer des élus au Congrès, des démocrates et des républicains, mais majoritairement des républicains, mais certains élus démocrates, il faut le préciser, ont été parfois soutenus par le Tea Party, c'est-à-dire que les gens, la mouvance Tea Party a considéré que certains élus démocrates faisaient finalement des choses assez proches de la plateforme politique voulue par ce mouvement, mais ce n'est pas un parti. Il y a aux États-Unis des partis politiques avec essentiellement deux très grands partis, le Parti démocrate et le Parti républicain. Mm-hmm. Il y a des partis un peu plus petits, comme les Verts, comme le Parti libertarien, qui ne sont pas présents dans tous les États. Le Tea Party n'est pas un parti politique, c'est une structuration d'individus soutenus par un certain nombre d'acteurs très riches qui leur permettent de faire des actions importantes, soutenus par certains journalistes. Et le point de départ du Tea Party, c'est quoi? C'est qu'il y a la crise en 2008 et que Washington, que je parle comme les populistes, que un certain nombre de responsables politiques au Congrès décident de voter l'octroi d'un budget gigantesque pour sauver Wall Street, un certain nombre de banques, un certain nombre de banques et de d'assureurs à New York. Et à juste titre, la population se dit, ils sont responsables de la crise, ils ont joué avec le feu, ils ont joué avec les subprimes, ils ont joué avec l'argent des gens. Maintenant, ils sont sur le point de s'effondrer et la classe politique donne de l'argent à ces banques. Alors, le Tea Party, c'est quoi? C'est un mouvement qui dit, on ne va pas prêter une somme d'argent aussi importante à des banquiers et des assureurs qui n'ont finalement que ce qu'ils méritent. Ça, c'est le début. Et pas de bol, ça tombe sur Obama. En fait, la crise commence avec George Bush fils qui termine son mandat. Et le gros de la crise aura lieu pendant les 8 années de Barack Obama. Donc, c'est surtout lui qu'on va accuser d'être à la merci, enfin, d'avoir soutenu ce prêt à Wall Street. Mais si ça avait été un élu républicain qui avait succédé à George Bush, il est probable que le Tea Party s'en soit pris également à cet élu républicain, puisque la critique, c'est par rapport à la finance.
Une finance. Voilà, on va se tourner maintenant vers Jean-Paul Marteau pour voir ce qui se trame en ce moment du côté démocrate. Jean-Paul Marteau, une réaction également sur ce qui vient d'être dit ?
Je pense que c'est très important de s'interroger sur les démocrates, en effet, parce que, dans une certaine mesure, le populisme, comme l'a bien dit Jérôme Jamin, n'est pas simplement réservé à la droite. Il y a eu aux États-Unis historiquement des mouvements populistes de gauche. Mais aujourd'hui, on a parlé de la montée au sein du Parti démocrate, notamment après les élections de mi-parcours en novembre dernier, d'une nouvelle génération plus à gauche. Et on la qualifie souvent, dans les titres des journaux américains, de populiste. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas, en fait, si on applique un petit peu la définition qu'en a donné Jérôme Jamin, on ne peut pas appliquer à ces jeunes démocrates, à ces nouveaux démocrates, dont certains d'ailleurs sont proches de Bernie Sanders, qui est un personnage plus âgé, mais qui incarne d'une certaine manière aussi cette génération. On ne peut pas parler réellement de populisme parce qu'on se retrouve davantage dans le scénario de l'apparition de personnes qui se réclament davantage de Franklin Roosevelt, que de la tradition populiste au sein du Parti démocrate. Et Franklin Roosevelt serait défini chez nous comme quelqu'un qui serait un social-libéral ou plutôt un social-démocrate, c'est-à-dire avec une intervention importante de l'État comme un élément de domestication du capitalisme, si j'ose dire, de favoriser une plus grande justice sociale. Et c'est vraiment une des caractéristiques de sa présidence, puisque le taux d'imposition qu'il avait introduit petit à petit était extrêmement, extrêmement important. L'économiste Paul Krugman, proche des démocrates, parlait de la grande compression, il voulait dire en termes de fiscalité, après la grande dépression. Et je pense qu'on est plus dans cette logique-là. Je pense qu'on est face au populisme qui était incarné par le Tea Party au sein du Parti républicain. On retrouve du côté démocrate non pas un populisme, mais d'une certaine manière une gauche qui est davantage proche des paramètres de la social-démocratie un peu à l'européenne, mais qui a aussi une tradition aux États-Unis, et c'est celle du New Deal de Franklin Roosevelt, c'est-à-dire la conciliation entre le rêve de liberté qui appartient un petit peu au rêve américain, mais aussi le rêve d'une plus grande égalité sociale, raciale et autre chose. Donc là, c'est vraiment extrêmement important de voir ce qui va se passer pour les élections, si cette génération et ces idées-là vont s'imposer dans le Parti démocrate, et de quelle manière ça va jouer. Est-ce que ça va affaiblir le parti parce qu'ils sont trop à gauche par rapport à ce qu'est l'électorat américain? Au contraire, ça va permettre de récupérer une partie du public démocrate, notamment dans le monde ouvrier, qui est parti vers le camp républicain.
Vous voulez dire que lorsqu'on met une étiquette populiste à certains discours, c'est parfois un petit peu trop rapide. Le parler vrai, le parler proche du peuple, les grands idéaux sont qualifiés trop vite de populisme ?
Je pense qu'il y a un danger d'utiliser le mot à propos et hors de propos. Je pense que le fait d'avoir un discours critique par rapport au pouvoir et au pouvoir économique n'est pas nécessairement un discours populiste. Il ne faut pas tout de suite dire que c'est une vision populiste, peuple versus élite. Non, ce discours-là peut être un discours progressiste, c'est-à-dire qui fait une analyse de la situation, des rapports de force et des questions de l'inégalité au sein d'une société, et qui, de manière absolument démocratique, dans le respect de la tradition, du respect des institutions, par exemple, ne s'inscrit pas dans une logique populiste qui, en général, exprime en fait un court-circuit des institutions qui font le système démocratique traditionnel avec ses contre-pouvoirs. Le populisme, très souvent, c'est le leader qui parle au peuple directement, sans médiation, dans le cadre de ces élus démocrates. On n'est absolument pas dans ce schéma. On est dans un schéma de respect des institutions américaines, de l'état de droit, mais avec une connotation beaucoup plus sociale qui passe évidemment par un discours qui appelle à plus d'égalité pour les milieux populaires. Donc, mais on n'est pas du tout, me semble-t-il, dans une logique qu'on pourrait qualifier de populiste. Et je crois que le mot populiste, très souvent, est utilisé d'une certaine manière, décrédibiliser ce type de démarche progressiste. Donc c'est important de bien signaler qui fait quoi, qui est qui. Et je pense que De nouveau, je pense que la manière dont Jean Benjamin précédemment a défini le populisme me paraissait extrêmement importante. Ça permet de faire la part des choses.
Très bien. Alors, Jérôme Jamin, est-ce que c'est pire aujourd'hui avec Donald Trump? Est-ce que le populisme en est à son apogée négative? Parce qu'on parle même de Trumpisme aujourd'hui. C'est-à-dire que le parti républicain, c'est le parti de Donald Trump qui l'a quasi transformé en Trumpisme. Et est-ce que, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à la moitié de son mandat, on va dire?
Alors, vous disiez en début d'émission que Donald Trump n'a pas inventé la haine, il l'a remis au goût du jour. Il est évident que au niveau des race relations, c'est-à-dire on ne parle pas de race en français, mais en anglais le mot race est utilisé et n'est pas considéré comme un terme inopportun. Au niveau des relations raciales aux États-Unis, les vives tensions que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas Donald Trump qui en est à l'origine. Elles étaient bien présentes au moment où Barack Obama quitte la Maison Blanche. Pourquoi ? Barack Obama n'a sans doute pas fait grand-chose pour améliorer les relations raciales aux États-Unis. Alors, soit il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas sa priorité. Vous savez qu'il a consacré énormément d'énergie à la réforme des soins de santé, le Affordable Care Act, ACA, dit Obamacare, c'est-à-dire un changement radical du système de santé américain permettant à davantage d'Américains d'être couverts. Et certains spécialistes considèrent que les relations raciales, la question du racisme, les inégalités, les discriminations, etc., etc., ça n'a pas été sa priorité. En parallèle, étant donné qu'il était afro-américain, il a eu peur de toucher à ces matières, puisqu'on aurait pu facilement l'accuser d'être partial. Ah, vous êtes afro-américain, alors vous vous occupez de votre minorité et vous méprisez les blancs. Cette stratégie n'a pas marché. Non seulement il n'a rien fait, mais ça ne l'a pas empêché d'être accusé d'avoir eu un agenda pro-afro-américain. Et donc, ça a fait apparaître deux camps. Le camp Black Lives Matter, la vie d'un noir, ça compte, qui estiment que Obama les a oubliés, alors qu'ils avaient voté pour Obama espérant qu'on allait un peu s'occuper des Noirs. Eh ben non. Et ça a fait naître en face un autre camp qui sont des gens blancs, âgés, en colère, au chômage ou susceptibles d'aller au chômage. Et c'est ceux qui ont voté Trump et c'est ceux qui étaient en partie au Tea Party. Donc quand Obama s'en va, on a une Amérique divisé, avec notamment deux camps radicalisés pour des raisons très différentes. Les Afro-Américains extrêmement frustrés d'avoir été abandonnés pendant 8 ans et surtout de se faire tirer comme des lapins, parce que c'est vraiment le cas. Si vous allez sur la plateforme Black Lives Matter, vous verrez qu'ils ont collectionné et archivé toute une série de vidéos où on voit très souvent des policiers qui ont la gâchette facile, qui tirent comme des lapins, des Afro-Américains, dont on dira après qu'ils représentaient une menace, qu'ils avaient une arme cachée, etc. Et dans de nombreux cas, ce n'était pas le cas. Et puis, en face, on a les fameux blancs chrétiens d'origine européenne américains qui se sentent oubliés, qui estiment que Barack Obama s'est occupé des minorités et pas d'eux, qui vivent dans la Rust Belt, la ceinture rouillée, la partie des Grands Lacs où les usines ferment les unes après les autres. Et donc Donald Trump aurait pu apaiser la situation. Au lieu de ça, il en a fait un outil de propagande et d'action politique. Il aurait pu, en arrivant à la Maison Blanche, apaiser cette Amérique divisée sous les années Obama. Mais au lieu de ça, il a mis de l'huile sur le feu. Mais c'est pas lui qui a, inventé cette situation. 2 ans plus tard, il commence évidemment à avoir une responsabilité. N'oubliez pas que lorsque des gens d'extrême gauche et d'extrême droite se sont battus à Charlottesville, il a beaucoup insisté pour dire que les bad guys n'étaient pas que du côté des néo-nazis. Ça a suscité une très grosse polémique. Et Donald Trump, qui sait utiliser les images, a montré des images de militants d'extrême gauche avec des clubs de golf tentant de tabasser des militants d'extrême droite. Ce qui, évidemment, montre qu'en effet, il y avait des bad guys aussi de l'autre côté. Mais néanmoins, en faisant ça, il laisse entendre que désormais, extrême gauche, extrême droite, c'est la même menace. Alors qu'il y a tout un débat très d'actualité en Europe qui consiste à dire que les extrêmes c'est dangereux, mais que l'extrême droite, à cause de sa dimension raciste, est encore plus dangereuse que l'extrême gauche.
Alors, pour terminer rapidement, on va repasser chez Jean-Paul Marteau. Jean-Paul Marteau, on peut également faire un parallèle, Jérôme Jamin, éclair du populisme américain vers le populisme à l'européenne. Que dire de l'Amérique latine avec l'arrivée au pouvoir au Brésil de Bolsonaro ?
Mais là, je pense qu'on fait un immense bond en arrière actuellement au Brésil, mais plus largement en Amérique latine. Jair Bolsonaro se réclame de deux traditions finalement brésiliennes, mais qui existent aussi dans d'autres pays latino-américains. Il ne faut pas oublier que le populisme a souvent caractérisé l'Amérique latine, et d'ailleurs des grands théoricien du populisme, Guilherme, a consacré pas mal de ses études à l'Amérique latine. Mais dans le cas brésilien, Bolsonaro se reporte aux années 1964, où il y a eu le coup d'État, le militarisme, et c'est un des éléments extrêmement importants qu'il faut signaler dans le populisme latino-américain. C'est très souvent lié à des formes d'arbitraire brutal du pouvoir, et la plupart des grands leaders populistes latino-américains étaient des militaires, aussi bien le président argentin Perón, qui était un militaire, aussi bien d'ailleurs Chavez lui-même, populisme dit de gauche, c'était aussi un militaire. Il y a cet aspect-là, et alors il y a le deuxième, donc le militarisme, et le deuxième c'est ce populisme qui a été extrêmement présent au Brésil au niveau national sous la dictature ou le régime autoritaire de Getúlio Vargas au siècle dernier, et qui a construit un discours populiste et qui a réellement exprimé une forme de populisme brésilien en insistant essentiellement sur deux choses, sur l'appel au peuple direct du leader. On tombe dans la logique du caudillisme, comme on appelle en Amérique latine, donc ce rapport de l'homme fort direct avec le peuple. Et deuxièmement, le nationalisme, c'est-à-dire une vision anti-impérialiste, c'est-à-dire contre les États-Unis. Je pense que Bolsonaro va développer le nationalisme brésilien, mais pas nécessairement dans sa forme traditionnelle anti-américaine, mais il n'en reste pas moins que son discours, on le voit très bien, ce discours de loi et d'ordre, mais c'est typique de ce genre de régime autoritaire, mais c'est un discours aussi nationaliste du style « le Brésil, vous l'aimez ou vous le quittez ». C'est un peu ce qu'on entendait dans les années 60, 70, lorsque la dictature argentine était critiquée d'extérieur ou même de l'intérieur, eh bien c'était l'argument. On disait « vous aimez votre pays quel qu'il est, c'est-à-dire une dictature, ou bien vous le quittez ». Et je pense que ça, c'est vraiment extrêmement préoccupant, parce que ce n'est pas seulement un phénomène brésilien, mais il y a aussi en Amérique latine un certain nombre de pays où on a cette tentation de pratiquer une forme de populisme, c'est-à-dire de régime qui en appelle directement au lien entre le leader, le caudillo et le peuple. Et traditionnellement, en Amérique latine, si on voit l'histoire des populismes, ça s'est toujours terminé par un drame. Ça s'est terminé par un drame avec Perón. La même chose au Venezuela aujourd'hui, où finalement le discours populiste qui se réclamait de la gauche, et pas de la droite comme Bolsonaro, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui est le désastre que connaît le Venezuela est l'expression même de nouveau cette illusion, ce mirage populiste qui est une véritable malédiction de l'Amérique latine.
Voilà, alors Jérôme Jamin, pour terminer cette émission, le sous-titre du livre, c'est tout de même un regard pour l'Europe. Donc qu'est-ce que le populisme aux États-Unis peut nous dire aujourd'hui du populisme en Europe, et surtout comment faire attention, comment sauver une démocratie, puisque en gros c'est quand même une menace pour la démocratie, et que dire aux électeurs qui sont souvent abusés par le populisme? Est-ce qu'il faut les rassurer? Est-ce qu'il faut contrer cette peur qui nourrit le populisme?
Alors, d'abord, le populisme n'est pas systématiquement une menace sur la démocratie. Il est un dérèglement démocratique qui peut mener à de l'autoritarisme et à de la dictature, mais ce n'est pas systématiquement une menace. Par ailleurs, le populisme peut parfois défendre des causes justes, même si jamais le populisme le fait avec un registre démagogique, cela peut arriver. Et quand je parle de regard pour l'Europe, je pense que il faut prendre la mesure du fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne, les institutions européennes et la concentration du pouvoir au sein des institutions européennes et les transferts de pouvoir des nations vers l'Union européenne laissent apparaître un pouvoir politique basé à Bruxelles et à Strasbourg qui, à certains égards, ressemble au pouvoir politique transféré des États fédérés vers l'État fédéral à Washington. Et donc, il est intéressant de se dire que si les Américains, depuis 200 ans, ont pu accepter ces transferts de pouvoir vers Washington tout en parfois étant dégoûtés par ces transferts et en luttant contre Washington, s'ils ont pu le faire pendant 200 ans, on pourra peut-être le faire aussi sans tout de suite y voir ni la fin de l'Union européenne, ni l'émergence d'une dictature. Il se fait que pour l'instant, en Europe, dans l'Europe géographique, les populismes au pouvoir sont surtout des populismes marqués à l'extrême droite. Peut-être que demain, nous aurons des populismes marqués à gauche, à droite ou à l'extrême gauche. Je ne pense pas que ce soit systématiquement une menace et que l'Union européenne ne survivra pas à ces menaces populistes. Mais l'histoire américaine montre qu'on peut tenir 200 ans avec un populisme structurel, institutionnel.
Merci Jérôme Jamin d'avoir été là. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. Merci à Jean-Paul Marteau. On rappelle les deux livres. Jérôme Jamin, Le populisme aux États-Unis, un regard pour l'Europe aux éditions Liberté, j'écris ton nom. Et Jean-Paul Marteau aussi, vous venez d'éditer Le journalisme au cœur des conflits aux éditions Mardaga. Merci, à très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Au revoir Jérôme.
Au revoir.
En quête de sens
sur la première.